Bonjour. Bienvenue. Alors, par où commencer ?
Le micro ici.
Ah oui, très important.
C'est assez fort, tout le monde entend ? C'est
oui.
Bon, parfait. Alors, un jour, on nous a demandé de... Quand on a découvert les petits déjeuners témoignages, qu'on a trouvé l'idée assez sympa, et on nous a dit tout d'un coup, Bob, mais bientôt, ça sera à vous, ça sera telle date. Ah bon, ok, alors on est là, et puis c'est cette date-là. Donc, par où commencer ? Il y a certaines personnes ici nous connaissent bien, d'autres un peu moins, d'autres pas du tout. Donc on va faire vous expliquer un peu. Alors moi je m'appelle Sarah.
Moi c'est Olivier.
Ah non, c'est l'inverse.
Ah ben ça commence bien.
Bon, alors avec Sarah, ça fait 28 ans qu'on se connaît.
Faut te mettre en porte.
Ah mais j'arriverai pas à changer.
Ah ouais.
Tout le monde voit, même si je suis là. Ça fait 14 ans qu'on est ensemble. Et ça fait 8 ans qu'on est mariés.
À l'époque, Olivier était en apprentissage de menuisier et moi j'allais commencer le mien d'ébéniste. Sa technique de drague était...
Ça te dirait de venir chez moi pour que je te montre les exercices des cours pratiques ?
Oui.
Et ça a marché. C'était mon premier plan drague. On appelle ça du 100% de réussite. Hein.
Une chose qui m'a tout de suite plu chez Olivier, ce qui nous frappe tous d'ailleurs, c'est son côté sportif, bien sûr. Il n'a pas peur de braver les océans, ni de monter les montagnes, qu'elles soient rocheuses ou sucrées. Même si parfois c'est un peu pénible, ce que j'aime bien chez Olivier, c'est qu'au fond, c'est toujours un enfant.
Moi, j'aime chez Sarah son petit côté rebelle, son côté fofolle, son côté théâtral et rêveuse. Et puis, on a toujours dit, plus c'est petit, plus c'est joli. Sarah, c'est aussi une aventurière. Elle est partie sac à dos 4 mois en Alaska. Elle y a construit des cabanes. Elle a aussi profité de la plage, mais pas vraiment en bikini. Une fois rentrée de son road trip, comme on dit chez nous à Lavigny, nous sommes mariés. Parce qu'on allait bien ensemble pour faire les ploucs.
Mais surtout parce qu'on s'aimait.
Après quelques années, il y a deux...
Nous avons agrandi la famille en accueillant Maëlle et Amandine.
Même si parfois on aura envie de les mettre au congélateur...
Ils nous comblent de bonheur.
En préparant ce petit diapo, nous sommes tombés sur quelques perles.
Voici quelques photos garanties sans retouche ni filtre.
Vous pensez bien que nous ne sommes pas devenus si athlétiques et beaux comme nous le sommes aujourd'hui, du jour au lendemain. Ça se travaille. Les feuilles prennent moins de temps à charger, mais là j'arrive à écrire en plus gros. Donc, ça dérange l'écran bleu ? Non, parfait. Donc après cette petite présentation, je vais vous parler un peu plus de moi. J'ai 31 ans, comme ça des gens qui se disent « Tu crois qu'il a quel âge ?» Alors j'ai 31 ans, je suis plumusier, j'ai changé de voie, maintenant je suis à mon compte comme moniteur de conduite. J'habite et j'ai grandi dans le plus beau village du monde, Lavigny. J'ai eu une enfance paisible, sans soucis. J'ai manqué de rien. Je n'ai pas grandi dans une famille croyante. Mais je peux dire que j'ai grandi et été élevé dans des valeurs pas forcément chrétiennes, mais qui allaient dans le même sens. qui était bonne, correcte, juste et remplie d'amour. Donc, je peux vous le divulguer maintenant, car quand on entend des témoignages, souvent on nous dit « Je suis né entre deux pages de Bible ». Eh ben non, moi je suis pas né entre deux pages de Bible, je suis né à l'hôpital de Morges. Dans ma jeunesse, j'ai fait le catéchisme dans la paroisse de l'Aubonne sans aucune conviction. C'était pour faire plaisir à ma famille par tradition. C'était pour moi des moments sympas entre amis. Mais Dieu, à cette époque-là, ne m'intéressait pas. Alors, lors des moments d'enseignement, j'étais celui qui aimait distraire et se faire distraire. Mes pensées étaient plus aux jeux et bêtises que l'on allait pouvoir faire plutôt que ce qu'il s'y racontait vraiment. Une autre motivation externe que j'avais eue aussi de la part de mon frère, mes cousins, des amis qui étaient déjà passés par là, c'est qu'à la fin de ce cathé, à la confirmation, ça allait être encore mieux qu'un anniversaire ou un Noël. Grosse bouffe et gros cadeaux. Ma confirmation passée, le repas digéré et les cadeaux déballés, je ne rentendis plus parler de Dieu. Puis, à l'âge de 17 ans, j'ai rencontré une fille, Sarah, ma première copine, 100% de réussite. Elle faisait partie du groupe de jeunes de l'église évangélique de mon village, Lavigny, plus beau village du monde. Aïe, l'église évangélique, assez peu connue de ma part, entendu certaines choses sur ces églises, c'est les Maumiers. C'est la secte aux yeux bleus. Ça me faisait un peu souci. Mais qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Pourquoi est-ce qu'elle est obligée d'aller là-bas? Après plusieurs discussions avec elle, elle m'explique que le vendredi soir, c'est groupe de jeunes et qu'elle, elle veut y aller. Ok, c'est elle qui veut. Elle n'est pas forcée. Ça va être encore plus dur pour moi de l'en sortir de cette église. Je ne comprenais pas comment on pouvait avoir du plaisir à aller suivre des soirées et griller son vendredi soir pour parler de Jésus. Moi, durant mon cathé, j'étais obligé. Parce que le pasteur, il mettait des coches. On devait avoir X coches durant l'année. Un culte normal, c'était une coche. Et puis, le culte de Pâques ou Noël, il comptait double. Alors moi, je faisais tous les cultes de Pâques et de Noël. Comme ça, j'en avais déjà gagné deux. Mais là, en fait, c'est elle qui se l'infligeait toute seule. Je veux que je respire. À chaque discussion sur ce groupe de jeunes ou Dieu, ça fut à chaque fois des sujets scabreux. Et ça finissait en engueulade, où j'étais complètement fermé, je ne voulais pas en entendre parler. Je lui expliquais que c'était du bourrage de crâne et qu'il fallait qu'elle ouvre les yeux. Ensuite, avec un peu de recul et de réflexion, je me suis dit que ah, j'aimerais bien voir ce qui se passe, me faire mon propre avis. Les mois et les saisons passent, finalement je me décide de les rejoindre pour les après-groupes de jeunes. J'allais aux afters. Ah tiens, j'en connais quelques-uns. Certains même, j'étais à l'école avec. De fil en aiguille, je mets de côté ce que j'avais entendu sur les gens fréquentant ces églises et me fais ma propre opinion. Je me remarque qu'en fait, ils sont super sympas et que ce n'est pas des extraterrestres. Ensuite, on m'a invité à des soirées pizza ramène tes potes qui ne connaissent pas Jésus. C'était pas le nom juste, mais c'était l'idée. Aujourd'hui, je pense qu'il y a peut-être des gens qui vous aiment et qui vous ont invité à un petit déjeuner témoignage. Je m'ouvre un peu plus à la discussion, j'entends ces personnes parler entre eux de Dieu. Je me dis qu'ils ont fumé, et je sais très bien que cela ne m'intéresse pas. Et par moments, ça me turlupine. Je me pose des questions. Moi qui disais à Sarah que c'était du bourrage de crâne, je me dis que de mon côté, je m'étais moi-même peut-être bourré le crâne à être contre tout cela. Ça pouvait m'arriver d'être un peu borné. En vacances avec Sarah et ma belle famille, en se promenant dans un marché, j'entends la sœur de Sarah, en regardant une voyante tirer les cartes, dit « Tu peux toujours tirer tes cartes de toute façon. Nous, on s'en fiche, on a la vie éternelle. » Après les vacances, je reparle à Sarah, puis je lui dis « Mais moi aussi j'aimerais avoir la vie éternelle. Qu'est-ce que je dois faire ?» Et là, elle fait « train de me demander comment rencontrer Jésus. Je pense qu'elle l'a fait intérieurement, elle ne me l'a pas montré, mais je pense qu'elle devait être un peu ça. Et là, elle a prié pour moi. Puis là, boum ! Alors, ça va pas péter, hein. C'est juste durant ce moment-là que j'ai personnellement accepté Jésus dans ma vie. Et dès ce moment, boum, une nouvelle dimension s'est ouverte à moi. Par la suite, faisant partie du groupe de jeunes, je participais cette fois à l'entier des soirées, aux sorties, aux week-ends, aux camps de ski. J'étais continuellement nourri, j'avais tellement de plaisir à passer du temps avec mes amis. Mais les années passèrent, les rythmes des rencontres diminuaient, la flamme en moi, était toujours présente, mais pas aussi grosse qu'au début. En 2009, après 6 ans avec Sarah, on officialise notre union, en nous mariant civilement et à l'église, chose qui était très importante pour nous de le faire devant Dieu. Les années passent, et cette flamme en moi, non, je le refais pas, est petite, peu ravivée, mais toujours présente. Durant nos premières années de mariage, nous cherchions une église qui nous convient aux deux. Après plusieurs essais, rencontres, découvertes, nous arrivons par atterrir dans une petite église à Lausanne. Dans cette église, l'accueil des gens est super. Je sens dans cet accueil et cette équipe une explosion d'amour. Je m'y sens bien, je suis touché, je sens la présence du Saint-Esprit, je comprends de nouvelles choses et j'ai soif d'avancer. Lors d'une semaine de jeûne, j'ai arrêté la cigarette. C'était beaucoup trop compliqué pour moi de penser à arrêter de manger. J'ai mis Dieu au défi, puis je lui ai demandé que je n'ai pas de difficulté à couper la clope. Ben, vous savez quoi ? J'ai passé une semaine sans fumer. C'était tellement facile que j'accompagnais Sarah quand elle sortait fumer. Elle-même n'y croyait pas. Puis après, j'ai arrêté définitivement, donc hein, je n'ai pas repris au bout d'une semaine. J'en ai parlé à Bob, puis il me dit « Puis, tu crois pas que par ça Dieu il te parle ?» Il pria pour moi, puis durant cette prière, je me suis senti dans l'eau, bercé par des vagues. J'ai compris à ce moment-là que Dieu m'appelait clairement à faire un pas de plus. Et c'est suite à ça que j'ai décidé de me baptiser. Et depuis, il ne se passe pas un jour sans que je vive quelque chose avec mon Dieu. Dans mon travail, dans mes relations, dans mon couple, dans ma famille, avec mes enfants, tout le temps. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est tous les jours facile, parce que je reste un homme. Donc je vais vous partager encore un petit truc qu'on a vécu dernièrement, puis après je laisserai la place à Sarah. Je pourrais aussi aller m'asseoir. Donc j'ai toujours eu des craintes concernant mes finances. Certains connaissent peut-être des désavantages d'être indépendant, c'est qu'à la fin du mois, c'est jamais régulier. Et quand il n'y a pas de boulot, ben il n'y a pas d'argent. Quand Sarah a repris son boulot après le congé mat pour la naissance d'Amandine, elle rentrait rarement très joyeuse. Pas la meilleure ambiance au travail, pas vraiment la place dont elle rêvait, beaucoup de fatigue due à une petite fille qui dort pas beaucoup et un mari qui ronfle. Elle m'a fait part de son envie de démissionner. Alors là, mon côté gestionnaire de la comptabilité de la famille lui dit « Non, mais tu sais, Sarah, t'as une place en or, t'as les vacances scolaires, t'es à 3 minutes de la maison. Pour une question de sécurité, de facilité, ça serait quand même mieux que tu restes. » Puis là, il y a mon côté mari qui me dit « Là, ta femme, elle va bientôt péter une durite. » Elle arrive gentiment à bout. À ce moment-là, on a la chance d'avoir le meilleur des conseillers à nos côtés. Avant que le Olivier gestionnaire confronte la Sarah fatiguée, qu'est-ce qu'on a fait ? Ben, on se met à genoux puis on prie. Et on demande à notre pote ce qu'il en pense. Puis à ce moment-là, boum ! Non, de nouveau pas. À ce moment-là, ben, la crainte que j'ai de manquer, que je ressentais physiquement comme une énorme boule dans ma gorge se dénoue. Puis là, mon pote, il me dit « La sécurité, c'est pas son travail. C'est moi. T'as rien à craindre. Tu manqueras de rien. » Là, je dis à Sarah, ok, tu peux donner ta lettre de démission. J'avais une telle paix à l'intérieur de moi que j'avais la certitude que c'était ce qu'il fallait faire. Et là, on se dit, mais punaise, comment ils font les gens qui ne connaissent pas notre conseiller? Et après ça, il se passe 3 mois, que l'on appelle délai de congé. Puis il se repasse 1 mois, qu'on appelle mois de janvier, avec toutes les assurances possibles et inimaginables que l'on avait presque oublié l'existence durant les 11 derniers mois. Et qu'on a décidé l'année passée de payer en une fois, comme ça, ça fait moins de frais. Puis eh bien, bah, ce fameux moment de payer les factures, le moment durant lequel Sarah, elle sait parfaitement qu'il ne faut pas m'adresser la parole, ni même croiser mon regard. C'est quand on a un enfant qui rentre dans le bureau, elle lui prend le bras. Non, 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 vas-y, va. Donc, 1 mois de janvier catastrophique pour mon entreprise, plus pas de salaire de Sarah, égale rien. Alors, bien sûr qu'à ce moment-là, le doute, il arrive à grands pas, comme ça. Puis, plus délicatement, cette pensée de « je suis la sécurité, tu ne manqueras de rien ». Et là, je me dis, je manquerai de rien, mais quelques zéros placés du bon côté de la virgule sur le compte, ça aiderait pas mal quand même, tu sais. Et alors, c'est à grand coup de pied que je dégage le doute. Après que Sarah me dit qu'elle doit aller faire des courses, elle me demande si on a des sous. Je dis, ben non. Puis ton chômage, on le touche quand? Elle me dit, ben non. 30 jours de pénalité, c'est moi qui ai donné mon congé. Hein? Tu ne manqueras de rien. Ok. Puis tout d'un coup, hop, on a un petit remboursement de la caisse maladie, qu'on avait aussi oublié. Et hop, un don de quelqu'un, sans qu'on ait rien demandé. Puis là, on se dit, ben ouais, il m'avait dit, tu ne manqueras de rien, ben merci Seigneur. Maintenant, on en sort gentiment, j'en tire une leçon, et je sais que Dieu voulait que notre famille passe par là. On a appris à lâcher des choses, à prendre conscience des valeurs de certaines autres, sur des priorités à mettre, sur des choix à faire. Maintenant, j'ai mon agenda qui commence à se remplir de rendez-vous, puis la dernière nouvelle est tombée ce mercredi, c'est que Sarah... elle est engagée à la place qu'elle souhaitait. Donc, alléluia. C'est tellement bon de vivre avec lui, on se sent tellement plus léger. J'ai compris que le seul choix de vivre avec lui, bah, il m'appartenait. Puis ce choix, c'est moi qui l'ai pris. Je vous invite à faire de même. Faites-lui confiance, vous n'avez rien à perdre. Vous n'avez que de l'amour à recevoir en retour. Vous êtes libre de vos choix, mais sachez que Dieu vous aime et qu'il a un plan merveilleux pour vous. Merci.
Bon, alors moi, je suis moins high-tech qu'Olivier, j'ai des feuilles en papier. Donc, alors voilà, moi, pour vous poser un peu le contexte de où je viens, je suis née dans une famille chrétienne, aussi pas, oui, entre deux pages de Bible, mais aussi à l'hôpital de Morges. Mais voilà, dans une famille où j'ai toujours entendu parler de Jésus, où on allait à l'église et on a été élevés, mes sœurs et moi, dans les valeurs de la foi chrétienne. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été convaincue que Dieu existait. Même si je n'ai pas toujours eu un parcours facile, vraiment, j'avais cette conviction dans mon cœur. Mais ce matin, j'ai plutôt, pour ce témoignage, je n'ai pas forcément envie de vous raconter toute ma vie et tout mon parcours, mais plutôt j'ai envie de vous partager quelque chose qui a changé ma vie dernièrement. Pour pouvoir comprendre un peu ce que j'ai vécu, j'aimerais juste revenir un petit peu en arrière. Quand j'étais enfant, j'ai vécu des événements marquants au niveau du rejet. J'étais tombée dans une classe pas cool, avec des autres élèves pas cool, avec une prof pas cool. Mais voilà, les années ont changé, ont passé, j'ai changé de classe, je suis devenue une ado. Finalement, ce souci de rejet, je l'ai rangé au placard. Et en fait, ça se passait plutôt bien, j'avais plein de potes, tout allait bien, et puis c'était nickel. Mais après cette étape de ma vie, j'ai quand même quelques traces qui sont restées dans mon cœur. Ce rejet, il a mis en moi un sentiment que je ne valais pas vraiment grand-chose. Et je me suis construite comme ça, comme je pouvais autour de ce mensonge. Je crois que je vais poser ces feuilles, sinon je vais faire comme ça. Blablabla. Voilà. Donc voilà, je me suis construite avec ce mensonge. J'avais déjà fait un bout de chemin avec là-dessus. C'est quelque chose que j'ai traité dans ma vie régulièrement. Voilà, il y avait des points qui ont été réglés. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, dernièrement, ben, il y avait des choses qui remontaient à la surface. Je me faisais de nouveau attaquer au niveau de mon rôle de femme, de maman, de fille et de sœur. Enfin, je me faisais vraiment attaquer dans mon identité. Ça procurait en moi quelque chose comme de l'insécurité, de la confusion et beaucoup, beaucoup de colère. Amandine est née et il se trouve qu'elle avait particulièrement besoin de moi la nuit. Et ça m'a beaucoup épuisée et du coup encore plus mis dans un état de vulnérabilité en lien avec tous mes défis. Donc j'ai vraiment eu des nuits catastrophiques où j'étais tellement en colère contre Dieu, je l'en voulais tellement. Et en plus, ça mettait de la culpabilité sur mon cœur parce que je me disais, mais pourquoi je t'en veux? C'était Dieu. Enfin, voilà. Voilà, c'était vraiment une confusion vraiment qui était présente dans mon cœur. En plus, c'était la période où Maël commençait à aller dans un grand lit. Il ne voulait plus être dans un petit lit avec un barreau, là, là, là. Donc, il sortait et il sortait. Ça durait jusqu'à 23 heures où il sortait de son lit. Et moi, ça me rendait, je ne sais pas, ça me rendait... Mais vraiment, ça venait chercher des choses profondes chez moi. Et je me mettais toujours en colère. Et finalement, le soir, voilà, c'était vraiment dur parce qu'on gueulait. Finalement, on se disputait avec Olivier. Puis après, Maël pleurait, ça réveillait Amandine. Enfin voilà, il n'y avait plus une seule soirée qui se passait dans le calme. Et puis, il y a eu une soirée où j'ai vraiment pété les plombs. Alors, ne vous inquiétez pas, personne n'a été blessé. Mais voilà, j'ai vraiment pris toute conscience que j'avais besoin d'assouvir ces pulsions de colère qu'il y avait dans mon cœur. Je choisissais consciemment de mettre Dieu de côté et de m'engouffrer dans cette colère. Au lieu de dire, bon allez Seigneur, allez, c'est difficile ces temps, mais je te prends avec moi. On monte, on va coucher ce gamin et puis c'est réglé. Donc j'ai pris conscience de ça. Et puis, je me suis dit, mais en fait, il faut que je fasse quelque chose. Maintenant, je peux plus continuer comme ça. C'est plus possible. Le soir, ça peut plus se passer comme ça. Il faut que je règle cette situation. Et puis, j'ai eu de la chance parce que le lendemain, et puis bon, avec Dieu, c'est pas souvent de la chance. C'est très souvent conduit. C'est toujours conduit. Par sa main. Et la chance que j'avais, enfin, ce que Dieu avait prévu pour moi, c'est que le lendemain, je voyais deux femmes de l'église merveilleuses qui ont vraiment su m'écouter sans me juger et puis qui ont pris du temps avec moi, on a pu prier et puis j'ai vraiment été libérée de cette colère. Et je vais faire comme Olivier, vous savez quoi? Ça a marché, boum, ça a marché. Du jour au lendemain, j'ai retrouvé ma joie de vivre et ma bonne humeur. Et le plus beau, c'est que le soir même, j'ai couché Maëlle et ça s'est passé dans le calme, mais un truc de fou. Et dans l'amour, il s'est endormi directement. Je me vois encore main dans la main avec Dieu pour coucher ce petit bonhomme, quoi. Et depuis ce jour, Maël, eh ben, il se couche sans problème. Évidemment, souvent, il fait durer le plaisir avec un petit câlin et un bisou, un petit verre d'eau. Oh, j'arrive pas à mettre ma couverture. Je veux faire encore un bisou à papa. Et blablabla. Mais c'est un enfant, et puis ça, c'est OK. Je me rends compte, en fait, vraiment, ça m'a fait prendre conscience à quel point mon comportement, en fait, ce mal-être qu'il y avait dans mon cœur, ça avait affecté toute ma famille. J'ai vraiment compris que je devais, en fait, bosser en collaboration avec Dieu, puis pas me mettre en colère contre lui. J'ai besoin de lui pour amener dans mon foyer cette ambiance d'amour, de respect, de calme et de joie. Et en surmontant cette étape avec Dieu, eh ben, il m'a fait aussi un autre cadeau. Il m'a donné de la joie. Il a transformé ma colère en joie. Et même quand je vis des trucs pas trop cool, où normalement, je devrais pas être joyeuse, ben en fait, je suis joyeuse. Dans mon cœur, je me dis, ben, c'est pas grave, j'ai de la joie. Et c'est pas de la joie, ah, je suis contente, c'est trop bien. Non, c'est vraiment une joie qui vient de Dieu. Et pourquoi je suis heureuse? C'est parce que j'ai cette conviction qu'il m'aime et que je suis la fille de Dieu. Et alors, mon témoignage est fini, un petit peu plus court que celui d'Olivier. Mais j'ai encore envie de vous partager quelque chose, c'est que j'ai vraiment à cœur de vous chanter un chant avec Véronique, si elle peut se joindre à moi, qui parle de cet amour de Dieu et de se remettre dans cet amour de Dieu. Et après ce chant, avec Olivier, on avait à cœur de prier peut-être pour ces personnes qui ont soit été touchées par son témoignage ou par le mien et qui auraient envie de redécouvrir cet amour. Ou juste de le découvrir si vous n'avez jamais connu cet amour de Dieu, cette joie qui vient vraiment de Dieu. On a envie de prier pour vous. On voit le texte derrière. Est-ce que vous arrivez à lire ou c'est trop petit? J'étais orphelin, seul abandonné, perdu sans chemin, et ton amour m'a trouvé, serré sur ton cœur, blotti contre toi, ma vie enlacée, dans la chaleur de tes bras, il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Dans l'amour de notre Père. J'étais orphelin, tu m'as adopté, saisi par ta main, tu m'as donné un foyer, de nouveaux vêtements, une bague au doigt, tu transformes les mendiants en enfants des rois des rois. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Ouragan de tendresse, océan de sagesse, joie jusqu'à l'ivresse, c'est l'amour de notre Père. C'est un lion qui rugit, un fleuron qui jaillit, douceur et furie, c'est l'amour de notre Père. Volcan de compassion, tempête d'affection, confiance et passion, c'est l'amour de notre Père. Le Fils venu sur terre, sa mort les bras ouverts, splendeur et mystère, c'est l'amour de notre Père. C'est l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, rend vivant les morts, mon plus grand trésor, Baptise-moi encore, Esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père.